Amen. On sait que la joie du Seigneur est notre force et nous sommes dans cette série qui s'intitule « De passer aux actes ». Et j'aimerais vous parler, le titre de mon message est celui-ci, « Il y a plus de joie ». Tournez avec moi dans Proverbes, sans tarder, Proverbes chapitre 11. Proverbes chapitre 11. Alléluia. J'ai rencontré Jésus, je sais qu'il est vivant, car je l'ai rencontré, j'avais 14 ans, et je l'ai vraiment rencontré. Je suis coupable de connaître la vérité. Et lorsque j'ai rencontré Jésus, j'ai découvert une joie, un bonheur extraordinaire que rien ni personne ne pouvait me donner. Mes parents m'en avaient parlé, et mes parents m'avaient dit, « C'est pas parce que tu as grandi dans une famille chrétienne que tu es chrétien. » Tu as besoin de rencontrer Jésus. Et il est venu, il a entendu mon cri, et il s'est manifesté à moi. C'était le moment le plus beau de ma vie. Et j'étais convaincu que tout le bonheur était là, dans cette intimité avec Jésus. Et j'avais développé un peu cette conviction que c'était un peu la finalité. J'avais enfin découvert Jésus ou que Jésus m'avait trouvé, prenez-le comme vous voulez, mais que j'étais arrivé à cette finalité du bonheur. Mais vous savez avec moi aujourd'hui que non, ce n'est pas la fin, c'est, au contraire, c'est le commencement. Et j'ai commencé à fréquenter le groupe de jeunes, nous étions dans une petite église et je me souviens, on se réunissait une douzaine de jeunes comme ça, on mettait les chaises en cercle devant la scène et les vendredis soirs. Il y avait un frère de l'église qui faisait de son mieux, il travaillait à côté, et puis le vendredi, il nous partageait la Bible, et c'était pas Jap, hein? C'était pas le week-end Jap, c'était un petit groupe de jeunes, on faisait de notre mieux, ça se passait pas toujours, c'était pas super entraînant, j'avais pas toujours vraiment envie d'y aller, mais ma mère me disait, tu vas au groupe de jeunes, donc j'allais au groupe de jeunes. Et puis un soir, le responsable du groupe de jeunes il nous parle de la joie d'inviter quelqu'un à l'église, le bonheur de partager sa foi et de ne pas garder sa foi pour soi-même. Et je l'écoutais, je me disais, j'ai commencé à réfléchir à l'impact, le prix et la portée de commencer à parler de Jésus dans les couloirs du lycée, à l'école. Et j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, non, ce n'est pas une bonne idée de parler de Jésus à l'école. ils vont me crucifier, ils vont me torturer, ils vont me persécuter. Ce n'est pas une bonne idée. Mais avant Jésus, je fréquentais les mauvaises personnes à l'école. Je fréquentais le mauvais groupe, je pourrais presque dire le pire groupe de l'école. Et quand j'ai rencontré Jésus, je les ai quittés. Je me suis retrouvé avec ce qu'on appelle peut-être en France les tronches, ça se dit? J'espère que ce n'est pas péjoratif. Les têtes, hein, les intellectuels, ceux qui, plutôt que d'aller fumer du cannabis sur la pause, allaient jouer aux échecs. Tu vois, ils allaient jouer aux échecs. Alors, j'ai commencé à aller jouer aux échecs avec eux, même si je ne connaissais rien. Et puis, un jour, dans les couloirs de l'école, je rencontre un ancien de mon ancien, si je peux dire, bande ou gang, je ne sais pas. Et il s'appelait Nicolas. C'était un grand Chilien. Il s'appelait Nicolas Silva. Je me souviendrai de lui toute ma vie. Et il me met la honte comme ça devant tout le monde. Il dit, mais t'es où? Tu fais quoi? T'es plus avec nous? Tu nous fréquentes plus? On m'a dit que t'es dans une secte. Et là, je fais, oh, la douche froide. Non. Et on se met à parler ensemble. Mais non, je suis pas dans une secte. Bon, ben alors, vendredi, tu sors avec nous. Je dis, non, vendredi, je suis pris vendredi. Tous les vendredis soirs, je suis pris. Ma mère m'a dit que je suis pris le vendredi soir. Et il dit, tu vas où le vendredi soir? Je dis, je vais à l'église. Il dit, tu vas où? Je vais à l'église. Il dit, je comprends rien, je vais à l'église. Et il crie comme ça dans l'école devant tout le monde, tu vas à l'église! La douche froide, la persécution va débuter. Et il me regarde comme ça, il dit, moi j'irai bien à ton église. Je dis, tout le monde, mais pas toi. Parce que je connaissais Nicolas. Il avait peur de rien, il se moquait de tout. Je dis, il va venir à l'église, il va bousiller le culte, il va ridiculiser les chrétiens, il va faire n'importe quoi, c'est pas possible. Et je n'ai pas pu lui dire non, parce qu'il avait déjà pris l'adresse. Il m'a dit, je te retrouve à ton église, je vais à ton groupe de jeunes, je vais aller voir c'est quoi cette boîte de nuit chrétienne. Et j'arrive vendredi soir, 19h, je serai là. Et croyez-moi, il était là. Mais comme jamais dans ma vie, j'ai passé la semaine à genoux, à prier Dieu de m'aider. Et Dieu a été au rendez-vous. Le culte a commencé et ce soir-là, c'est un peu différemment. Ce n'était pas en cercle. Il y avait un peu plus de jeunes que d'habitude. C'était comme en rang, comme ça. Il y avait juste trois rangs de jeunes. Et il y avait un frère qui essayait de gratouiller la guitare, de faire chanter, mais ça ne se passait pas bien. Il n'avait pas bien ajusté et accordé sa guitare, donc il ne chantait pas bien. Tout allait mal, vraiment, je vous dis, tout allait mal ce soir-là. Et je commençais à me prendre la tête et je me disais, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas ce soir que Jésus serait glorifié dans le cœur de Nicolas. Ce n'est pas possible du tout. Et à l'époque, les temps changent, mais à l'époque, on tapait des mains. Ça se dit, taper ou battre des mains, je ne sais pas comment on dit en France. Hein. Et quand tu devenais chrétien, tu te faisais baptiser d'eau et après, tu battais des mains. Il fallait vraiment taper des mains à l'église. Tout le monde battait des mains. Si tu ne tapais pas des mains, on te donnait un petit coup comme ça, puis tu te mettais à battre des mains. C'était tous les chrétiens battaient des mains. Les époques ont changé, les temps ont changé, hein, mais à l'époque, c'était vraiment comme ça. Donc, tous les jeunes battaient des mains. Et Nicolas s'est mis à battre des mains, mais comme vous avez bien compris, Nicolas n'était pas comme les autres, un peu, comme on dit, out of the box. Donc, il s'est mis à faire la fête et tout. Et j'ai commencé à me prendre la tête et me dire, non, c'est pas possible. Et il a vu des jeunes lever les mains vers Jésus. Donc, il a commencé à lever ses mains vers Jésus, à rigoler, il riait, il se moquait de tout. Et c'était vraiment très, très mal parti. Et est arrivé le temps du message, de la parole de Dieu. Et là, vraiment, j'avais la boule au ventre. Je ne vous raconte pas, je ne voulais pas qu'il réponde au pasteur ou je voulais qu'il reste dans l'ordre. Je lui avais dit, quand le pasteur parle, tu ne fais plus rien. Tu ne bouges plus, tu ne respires plus, tu rien. Il dit OK, et tout. Et à la fin du message, le frère fait un appel. Il invite les jeunes à baisser la tête, fermer les yeux. Il voulait prier pour ceux qui souffrent. Et je vois Nicolas qui commence à bouger ses épaules comme ça. Et je dis, mais il fait semblant encore, toi. Il nous fait encore le clown. Et je lui mets un coup comme ça. Je dis, mais arrête de te moquer. Et il se tourne le visage comme ça. Et les larmes coulaient sur son visage. Il m'a dit, Christian, je rigole plus là. Il dit, Dieu est ici. Il s'est mis à prier parce que sa langue natale était espagnole. Il s'est mis à prier en espagnol. Il m'a confessé des grandes souffrances qu'il vivait à la maison. Parce que parfois, les gens qui sont les plus extravagants cachent beaucoup de douleurs à l'intérieur. Et parfois, ils sont stressés. On dit « restless » en anglais. Ils ne sont pas au repos à l'intérieur, donc ils sont toujours en mouvement. Et Nicolas était comme ça. Et ce soir-là, Nicolas a donné son cœur à Jésus. Et je vous dis ceci, autant la réunion était mal partie, mais qu'est-ce qu'elle s'est bien terminée? Autant que pour moi, dans le vrai sens du mot, la réunion était plate. Mais quand j'ai vu Nicolas ouvrir son cœur à Jésus, j'ai été envahi d'une joie. Instantanément, je ne peux pas vous l'expliquer, on va en parler dans un instant, mais il y a une joie qui a monté en moi. Et croyez-moi que lundi matin, dans les couloirs de l'école, Nicolas était devenu un évangéliste. C'était impressionnant. Parce que lorsqu'on est un chrétien, on ne peut pas rester comme ça. Amen. Quand on a trouvé le bonheur, on veut le partager. Même si on se fait moquer, même si on subit toutes sortes de préjugés, même si la société véhicule toutes sortes de choses sur les chrétiens qu'on voit à la télé, qu'on lit dans les journaux, on arrive à traverser toutes ces choses-là parce qu'on sait qu'on a trouvé le bonheur. Et on veut juste le partager autour de nous. Amen. Et vous savez qu'on est dans cette série sur les actes des apôtres, mais les actes des apôtres au complet sont en un seul verset, et on va le lire ensemble. Proverbes chapitre 11. Je vais vous lire deux versions parce que vous allez voir comment... je mets une petite parenthèse, vous allez voir que c'est important d'étudier la Bible, de ne pas s'arrêter à une seule traduction de la Bible. La version Second 21, qui est une excellente version quand même, dit ceci, « Le fruit que porte le juste est un arbre de vie et le sage gagne des âmes. » Les chrétiens matures connaissent ce verset, « Le sage gagne des âmes. » Mais si on le traduit, on peut le traduire vraiment différemment et la New King James Version a dit ceci, je le traduis en français. Le fruit de la justice est un arbre de vie et celui qui gagne des âmes est sage. Je l'explique. C'est très simple. C'est tous les actes des apôtres ici. Le fruit, c'est le résultat. La justice, c'est ce qui s'est passé à la croix. Amen. Restez avec moi, il y en a qui sont en train de comparer leur traduction, leur version. Restez bien avec moi, vous ferez ça à la maison. Le résultat de la croix est un arbre de vie. Quel est cet arbre de vie qui est le résultat de la croix? C'est l'Église. L'Église, donc, le fruit de la justice est un arbre de vie. Le résultat de la croix est un arbre de vie. Cet arbre de vie a un tronc qui s'appelle Jésus-Christ, mais les branches, c'est toi et moi, mon ami. L'arbre de vie, c'est l'Église. Donc, tous les actes des apôtres sont dans une phrase. Le fruit de la justice est un arbre de vie. Le résultat de la croix, c'est l'Église, comme un arbre de vie. Mais l'auteur inspiré de Dieu colle à cette phrase une suite. Il dit, « Le sage gagne des âmes. » Mais il y a une traduction que j'aime beaucoup qui dit ceci, « Celui qui gagne des âmes est sage. » Il y a un double sens ici dans l'hébreu qui est très intéressant. C'est que oui, il faut de la sagesse pour partager sa foi. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas juste, comme un bulldozer, apporter l'Évangile aux gens autour de nous. Non. La Bible dit « Celui qui gagne des âmes est sage. » Il faut de la sagesse pour gagner des âmes. Mais je ne veux pas rentrer dans ce sujet aujourd'hui. Je veux amener l'autre côté, l'autre versant de cette traduction. « Celui qui gagne des âmes est sage pour lui-même. » Écoutez-moi bien aujourd'hui. « Celui qui fait de sa vie chrétienne, pas une vie de consommateur d'église, consommateur de prédication, consommateur de louanges, consommateur de bénédictions, mais celui qui fait de sa foi, qui dit « Je suis un arbre de vie », puis écoutez-moi, un arbre, ça porte du fruit. Et le fruit est appelé à être cueilli. Donc, un chrétien, on l'a vu ensemble, c'est quelqu'un qui est en mouvement, c'est quelqu'un qui partage sa foi. C'est quelqu'un qui ne peut pas juste rester enfermé dans une bulle évangélique, mais c'est quelqu'un qui va vers l'extérieur, qui ose, qui risque, peu importe le prix, peu importe peut-être la souffrance, ou de se prendre parfois la honte, ou des retours de flammes, comme on dit, mais envers et contre tous, c'est plus fort que moi. J'ai trouvé la vie, je fais partie d'un arbre de vie, je dois partager ma foi. Et ici, il y a une promesse extraordinaire pour ta vie et pour ma vie, c'est que la Bible dit, si tu fais de ta vie cette cause constante d'être quelqu'un qui cherche à partager sa foi, la Bible dit, tu es sage pour toi-même. En d'autres mots, c'est un excellent investissement que de chercher à partager sa foi. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce que d'abord, tu vas vivre ce que la Bible enseigne. Une joie instantanée, immédiate. Et il y a des chrétiens qui sont perpétuellement dans une tristesse, il leur manque quelque chose. Il y a des chrétiens qui sont dans la prière, qui sont dans la parole, mais qui n'ont pas trouvé le bonheur encore parce qu'il leur manque quelque chose. On ne peut pas toujours manger. À un moment donné, il faut consommer ce qu'on a mangé. À un moment donné, il faut le dépenser. Il faut se dépenser. Et il y a une joie qui existe dans la simplicité de partager sa foi. Et cette joie, elle est instantanée. Mais il y a aussi une deuxième bénédiction, qu'on va le voir vers la fin du message, qui est, c'est un investissement pour le futur. Et Dieu dit, celui qui cherche à gagner des âmes, celui qui se préoccupe de son prochain, celui qui essaie de faire du bien à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Bien sûr, on se fait du bien les uns aux autres, entre frères et sœurs en Jésus-Christ. Bien sûr, la communion fraternelle, l'amour fraternel, bien sûr, ça fait partie de l'Évangile. Mais je vais aller plus loin. Celui qui sort des quatre murs de l'Église et qui s'intéresse à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, la Bible dit, il est sage de faire cela. C'est un excellent investissement pour ta vie personnelle. Mais d'abord, c'est une joie instantanée. Quelques vérités ce matin. La joie parfaite, la vraie joie, elle est dans le don de soi. La vraie joie n'est pas dans ce qui court sur les rues de Paris. Regardez les affiches, regardez les publicités, regardez ce qu'on affiche partout. Ma liberté, ma vie, mes droits, j'ai le droit, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Tout ce message que nous voyons aujourd'hui qui est extrêmement populaire et répandu, dont certains, on pourrait même dire peut-être un tout petit groupe de têtes militantes qui enseignent à toute une génération de jeunes aujourd'hui et qui perdent une génération de jeunes en leur disant « c'est ta vie, c'est tes choix, c'est ton droit, t'as le droit, pense à toi », les perdent. Parce que le bonheur n'est pas là. Le bonheur, c'est l'inverse. Jésus a dit « il n'y a pas de plus grand bonheur que de donner sa vie pour ceux qu'on aime ». C'est ça le vrai bonheur. Je dis ces paroles, Jésus a dit dans Jean 17, 13, je dis ces paroles afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Quelle était la joie de Jésus? La Bible dit qu'il a trouvé sa joie à être parmi les hommes. C'est écrit dans Ésaïe. C'était une joie pour Jésus de marcher. Je vous dis, si Jésus avait été parisien, il aurait aimé prendre le métro. Vous n'aimez pas prendre le métro, vous aimez mieux prendre la voiture. Mais Jésus aurait aimé prendre le métro. Il aurait aimé marcher sur la rue de la Roquette dimanche matin avec les bouteilles cassées et les gens qui sortent des boîtes de nuit. Jésus aurait aimé ça. La Bible dit qu'il aimait être parmi les hommes. Il avait une joie complète. Et la Bible dit que le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie. Donner sa vie pour ceux qu'il aime. Mais il aime tout le monde. Dieu a tant aimé le monde. Alors, la joie parfaite que Jésus nous a laissée, parce qu'il dit « Père, je leur laisse ma joie qui est parfaite, ma joie qui est complète, je leur laisse, Père. » C'est quoi cette joie? C'est la joie de se donner. Mon ami, le vrai bonheur que tu cherches, pourquoi? Là, on dit « Mais pasteur, tu ne parles pas des chrétiens ce matin. » Je parle à des chrétiens. Il y a des enfants de Dieu qui ne sont pas heureux. Le vrai bonheur, c'est de t'inquiéter de la personne qui est à côté de toi. C'est ça le vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est de penser, oui, d'apporter nos fardeaux, oui, d'apporter nos besoins à Dieu, mais à un moment donné, s'en libérer complètement et s'intéresser à mon prochain. C'est ce que Jésus a dit. C'est ce que Jésus a vécu. Et Jésus a démontré que la vraie joie parfaite est dans le don de soi. C'est extraordinaire de voir qu'il y a plusieurs versets qui nous démontrent qu'il y a plus de joie à partager sa foi. Il y a une joie dans la présence de Dieu. Il y a une joie dans l'adoration, dans la prière, dans la parole. C'est la source de notre joie. Mais ce n'est pas la finalité de notre joie. Ce n'est pas moi qui l'enseigne. C'est bousculant. Mais regardez ce que la Bible dit. Jésus parle d'une dame qui a perdu une drachme, qui a perdu une pièce. Et cette histoire, elle est très forte. Parce qu'à l'époque, ils ont compris ce que Jésus voulait dire. Ce n'est pas juste qu'elle a perdu une pièce. Qui organiserait une fête parce qu'il retrouve une pièce d'argent? Qui ferait venir ses voisins? Venez à la maison, on fait une grande fête. J'ai perdu 100 euros la semaine dernière, je l'ai retrouvé. Venez, on va faire une grosse fête ce soir. Il y avait quelque chose de plus profond derrière cette pièce. Et quand on découvre le contexte, c'est qu'une femme mariée portait un collier sur son front avec des pièces. Et elle le portait pour des occasions importantes, ou lorsqu'elle allait au marché, ou lorsqu'elle allait en public. Et elle démontrait que sa richesse, son rang dans la société. Une pauvre dame avait un petit collier très humble, et une dame riche avait un collier très imposant. Et elle venait avec et la dernière chose qu'il fallait faire, c'était abîmer ou perdre une partie de ce collier. Et on a trouvé dans l'histoire juive des textes où des femmes ont été menacées même de divorce, accusées d'adultère parce qu'elles avaient négligé un peu ce collier et des hommes ont presque mis dehors leur épouse à cause qu'elles avaient négligé ce collier, ce collier qu'elles se mettaient sur le front si important. Et Jésus dit ceci, il dit, le royaume des cieux est comme ceci. C'est comme une femme qui a perdu, c'est comme si tout son avenir est en jeu, elle doit retrouver cette pièce. Et Dieu dit, moi je dois retrouver la brebis perdue. Moi, je dois retrouver ton collègue, ton voisin, ton proche, ta fille qui est loin de Dieu, ton mari qui est loin de Dieu, ton tonton qui est loin de Dieu, qui ne veut rien savoir de Dieu, ton voisin qui boit et qui prie, que tu l'entends à travers les murs le soir. Dieu dit, il est comme une pièce précieuse que je dois retrouver. La Bible dit, et lorsqu'elle l'a retrouvée, elle est dans une grande joie. Donc, la vraie joie, mes amis, il y a une joie dans l'Église, c'est vrai. Il y a une joie dans la communion fraterne. Il y a une joie dans le culte, c'est extraordinaire. Mais franchement, ce n'est pas moi qui l'a dit, Jésus a dit, il y a plus de joie à partager sa foi. Même si ça coûte un prix. Il va parler du fils perdu, que le père est dans une grande joie lorsqu'il le retrouve. Il va parler de la brebis retrouvée, et le berger dans une grande joie. Et Jésus dit dans Matthieu 18, elle lui cause plus de joie. Dites avec moi, plus de joie. Plus de joie. Mais Seigneur, il y en a des centaines à l'Église Paris-Métropole. C'est pas assez pour toi? Non. Seigneur, on est tous là le dimanche et tu n'es pas avec nous. Oui, je suis avec vous. Oui, je vous aime. Oui, je me réjouis en vous. Mais lorsqu'il y en a un, lorsque les prochains baptêmes arrivent, il y a plus de joie. Lorsqu'on me dit que cet après-midi, vers 15 heures sur République, on organise un temps pour les nouveaux, Et cette semaine, on m'a dit, Pasteur Christian, il y a 85 personnes d'inscrites pour des tout nouveaux à l'Église. Peut-être que certains ne sont pas encore à Christ. Je me languis de les rencontrer parce qu'il y a plus de joie. Et la Bible dit, elle lui cause plus de joie. Je vous le dis, il y aura plus de joie. Dites avec moi plus de joie. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes. Mais Seigneur, et moi? Tu vois? Il y a plus de bonheur. Et lorsque Paul s'est séparé des anciens de l'Église, d'Éphèse, je crois, si je ne m'abuse, et il savait qu'il allait donner sa vie à Dieu et que, pour Dieu et qu'il allait bientôt mourir dans peut-être quelques mois ou quelques années, on allait attacher ses mains et le prophète lui dit, on va t'attacher, on va t'amener à Rome. Et les anciens de l'Église viennent et lui disent, non, Paul, n'y va pas. Paul dira ceci, il leur dit, vous savez, notre Seigneur Jésus a dit, il y a plus de bonheur à donner. C'est ce que Jésus leur a dit. Il y a plus de bonheur à donner. C'est impressionnant parce que Paul cite des paroles de Jésus qui ne sont pas dans les évangiles. Seuls les évangiles citent Jésus. Et Paul dit dans Acte 20 que Jésus a dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Et c'est un verset que vous et moi, on connaît. Si vous êtes chrétien depuis de longue date, vous connaissez ce texte. « Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. » Mais vous ne pouvez pas le retrouver dans les évangiles. Mais pour Paul, Jésus l'a vraiment dit. Donc, ça vient d'où cette phrase? Ça vient des disciples qui ont été avec Christ. Ça n'a pas été écrit dans les évangiles. Mais les disciples qui étaient avec Christ ont retenu ces paroles de Christ. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et ils ont transmis ces paroles à 2, à 10, à 20, à 50, 1000. Et c'est devenu, dans la tradition des premiers chrétiens, c'était devenu une phrase que tout le monde connaissait. Et quand Paul a dit aux chrétiens d'Éphèse, il leur a dit, il y a plus, vous savez, Jésus a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ah, c'est vrai, le Seigneur l'a dit. Tout le monde le savait. Je ne sais pas, parce que moi, je suis pas issu de la France, c'est tellement cosmopolite ici, mais il y a une époque où lorsqu'on se saluait, on disait toujours que Dieu te bénisse. Ça se dit moins aujourd'hui. Mais chez les premiers chrétiens, c'était tellement connu que c'était presque comme que Dieu te bénisse. Ah oui, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Tu fais quoi ce soir? Ah, j'invite mes voisins à souper, on va parler et tout. Ils ne sont pas encore à Jésus, mais on va passer du temps avec eux. Ah oui, c'est bien ce que tu fais. Ah, tu te souviens, Jésus a dit, ouais, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Super, vas-y mon frère, allez, allez. Et on ira faire un foot une autre fois. Et toi, tu fais quoi? Eh bien, moi, je vais sur la rue avec coup de pouce. Et puis vendredi soir, on va donner des colis. Et puis on va s'approcher des gens qui dorment sur la rue. On va juste leur donner un peu de bonheur, un peu d'amour, un peu d'espoir. Ah oui, c'est bien ce que tu fais. Donc, tu viens pas avec nous au resto? Non, je peux pas y aller. Je dois vraiment aller avec coup de pouce parce que vraiment, je me suis engagé. Tu sais ce que Jésus a dit? Ah ouais, je sais ce que j'ai le plus de joie à donner qu'à recevoir. C'était comme ça, les premiers chrétiens. C'est ce qu'ils se disaient les uns aux autres. Ça faisait partie, mais écoutez-moi bien, je le dis avec beaucoup d'amour, que Dieu m'aide. Mais j'ai parfois l'impression que c'est en train de se renverser. C'est comme si tu regardes ce qui se véhicule sur Internet, dans le monde évangélique, c'est comme si tout est en train de se renverser. C'est comme si maintenant, il y a plus de joie à recevoir qu'à donner. Bénis-moi, 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 bénis-moi. Et quand je serai assez béni, bénis-moi encore. Donc, on va se dire les vraies choses. C'est comme s'il y avait plus de joie à recevoir qu'à donner. Mais ce n'est pas l'Évangile, ça. Si tu veux vraiment être béni, donne. Si tu veux vraiment être béni, partage ta foi. Il y a plus de joie. Écoutez-moi bien, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous n'êtes pas d'accord, il faut aller voir Jésus-Christ, pas moi. Mais Jésus a vraiment dit, il y a plus de joie à partager sa foi. Si on prend Jésus au mot, et moi j'aime le prendre au mot, Seigneur, est-ce que tu es en train de me dire il y a plus de joie à partager ma foi qu'à te louer? Vous ne répondez pas à ma question. Moi, je pense que oui. Je pense qu'il y a plus de joie. Maintenant, si tu n'as pas de relation avec Jésus, que tu partages ta foi, là, c'est pas bon. On comprend. On parle d'un chrétien qui a une relation avec Dieu, qui a une communion avec Dieu, qui se confie en Dieu, qui vit quelque chose avec Dieu. Et pour le meilleur et pour le pire, même si ce n'est pas toujours facile, ou même si tu peut-être combats avec certaines choses dans ta vie, tu te confies en Dieu, mais après tu partages ta foi. Et la Bible dit, il y a plus de joie à partager sa foi qu'à la garder pour soi-même. Il y a plus de joie à aller boire un café avec ton collègue que de passer une soirée avec des chrétiens. C'est pas moi qui l'a dit. C'est Jésus. Il y a plus de joie. Donc, si ça va pour toi, OK. Mais si tu aimerais avoir plus de joie, ben vas-y. Parce qu'elle est là, la plus de joie. Elle est en allant vers l'extérieur. Oui, mais pasteur, ils vont poser plein de questions sur l'évolution, sur ceci, les dinosaures, machin, et les autres religions, et l'hindouisme, il n'y a pas que Jésus. Et je ne sais pas comment leur... Mais commence. Vas-y, tout doucement. Je veux vous dire, de toute façon, il n'y a rien comme ton témoignage. L'arme absolue des chrétiens, ce n'est pas qu'on va leur faire mal hein, avec une arme, mais l'argument que personne ne peut répondre, c'est ton témoignage personnel. Ce que Jésus a fait pour toi. Vas-y, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Oui, vous êtes notre gloire et notre joie, Paul dit aux Thessaloniciens. Oui, cette joie dans les... Et Jésus n'a jamais dit qu'il n'y a pas de joie dans les autres choses. Il y a de la joie dans la louange, il y a de la joie, il y a un bonheur dans la parole de Dieu, il y a une joie extraordinaire dans la présence de Dieu, dans l'intimité avec Dieu, bien sûr. Jésus n'a pas dit qu'il n'y avait pas de joie dans les autres choses. Jésus a simplement dit qu'il y en avait plus. À ne pas garder ton trésor pour toi, mais à le partager. Voyez-vous, malheureusement, certains chrétiens ont limité le service à l'Église, à l'intérieur de l'Église. Et c'est vrai qu'il y a des besoins logistiques, de coordination, de techniques juridiques, administratives, de comptabilité, la musique, la communication, le graphisme, prêcher, les intercesseurs, il y a beaucoup de choses, le ménage, il y a tellement de services qu'on peut faire dans une église. Et ces services sont très importants. Et oui, ils procurent une joie, mais ils n'annulent pas notre mission aussi de partager notre foi. Tu peux servir dans l'église et je dis « Amen, Alléluia ». Mais cela n'annule pas ta mission de partager ta foi. Chacun d'entre nous, moi aussi et ma femme, chacun d'entre nous, nous intéresser aux gens autour de nous. La joie de partager sa foi, elle est immédiate. Elle est spontanée. Pourquoi? Pour la simple raison que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ aime les âmes. Faites l'essai. Si vous l'avez déjà fait, si vous avez déjà vécu ce que je dis, vous savez de quoi je parle. Mais si vous n'avez encore jamais partagé votre foi, même si ça ne se passe pas bien, même si, parce que la plupart d'entre nous, quand on partage notre foi avec des gens autour de nous, vous savez, c'est souvent une heure plus tard qu'on trouve les meilleurs arguments, mais c'est terminé. C'est vrai, hein? Tu es dans le train, tu dis « Ah! » Tu arrives à ta quatrième station de métro et tu dis « Non, mais c'est ça que j'aurais dû lui dire. Ah! » Mais même si tu t'es trompé, même si le simple fait d'avoir partagé ta foi, voyez-vous, Dieu nous prend imparfaits comme nous sommes. Et il y a un département d'évangélisation ici à l'Église qui font un travail extraordinaire. Parfois, ils organisent des formations et tout ça. Ça peut être très enrichissant. Mais il faut quand même y aller. On dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et tu vas trouver spontanément une joie à partager ta foi. J'aimerais dire ça, tous ceux qui aspirent à devenir pasteurs, évangélistes, missionnaires, prophètes, docteurs et tous les ministères que l'Église peut offrir, vraiment, si vous ne pouvez pas partager votre foi à votre prochain qui est juste à côté de vous, n'espérez même pas aller plus loin. Parce que si je suis un pasteur, mais que je suis un pasteur que dans l'Église, on est tous appelés à partager notre foi. Amen. À parler aux gens autour de nous. La Bible dit « Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée » dans Hébreux 12, 2, Jésus a enduré la mort sur la croix. C'est très fort cette phrase. Ça veut dire que je pense que nous ne comprendrons jamais la pensée complète, céleste, divine qui habitait Jésus-Christ pendant qu'il portait sa croix. Nous, on voit beaucoup les douleurs physiques et beaucoup de films ont été certains très graphiques sur les douleurs physiques qu'on a imputées à Christ, la flagellation. Et Mel Gibson a fait ce film extrêmement sanglant et graphique. Mais je vous dis ceci, le plus important, ce n'était pas ce qui se passait dans son corps ou ce qu'on faisait à son corps. Le plus important, c'est ce qui se passait dans sa tête. Et pendant que Jésus portait sa croix La Bible dit qu'il avait les yeux sur la joie qui lui était promise. Ils seront sauvés. On sera ensemble. Je viendrai dans sa vie. Je la libérerai. Je la pardonnerai. Je reconstruirai sa vie. Elle trouvera la paix. Et puis, on sera ensemble et elle viendra avec moi dans le ciel et on passera l'éternité ensemble. Je vous garantis que ça a donné une force à Christ pour aller à la croix qu'on ne peut même pas comprendre. Et la Bible dit, en vue de la joie qui lui était proposée ou réservée, il a enduré la croix. Quand je parle de cette joie de partager ma foi, je vais faire très attention. Parce que depuis quelques années, il existe, comme partout, il existe du vrai et du faux. Et le faux ressemble au vrai, mais n'est pas vrai. Il existe des fausses doctrines, il existe des fausses églises, et je vous dis ceci, il existe des fausses façons d'évangéliser. On a des équipiers ici à l'église et d'autres églises. Il y a des très, très belles choses qui se font sur Paris. Il y a des gens qui ont à cœur Paris qui font des choses merveilleuses au niveau de l'évangélisation, mais il faut faire attention. Parce qu'il y a une tendance depuis quelques années à rechercher plus une sorte d'adrénaline en allant sur la rue, une recherche de sensation plutôt qu'une simple compassion. Et il y a des gens qui font des choses sur la rue qui déshonorent le Seigneur, qui sont un déshonneur pour l'Église et pour le nom de Dieu, qui manquent de sagesse, parce que la Bible dit que l'homme sage gagne les âmes. Il est sage pour lui-même, mais aussi il doit user de sagesse. Et il y a des gens aujourd'hui qui font des choses qui sont mélangées avec des fausses doctrines, qui sont très subtiles, il faut faire attention. Mais il y a des gens qui vont dire, qui vont écouter mes paroles peut-être sur Internet et qui vont dire, tu vois, pasteur Christian a dit qu'il y a une joie à l'évangéliser. Regarde, nous, on le vit. Et ce n'est pas la même joie, on ne parle pas de la même chose. Certains, ce n'est pas la joie de Dieu qui les habite, c'est cette recherche d'adrénaline, cette recherche de sensation, cette recherche de débat, cette recherche de vivre des choses intenses sur la rue, exceptionnelles et spectaculaires. Je ne parle pas du tout de ce genre de sensation. Je parle de la simple joie de partager sa foi. Simplement. Certains seront appelés sur les trottoirs de Paris, d'autres seront appelés juste à s'approcher de leurs voisins ou de leur famille. Mais il y a une joie, mes amis, à partager notre foi. Quand je suis arrivé en France, il y a presque 13 ans maintenant, j'ai remarqué que, et je respecte les journalistes, j'aime les journalistes ont un travail très difficile. Hier, j'en ai croisé un, puis on parlait un petit peu, et puis ils ont énormément de pression. J'ai beaucoup de respect pour eux. Mais j'ai remarqué quand je suis arrivé, et c'est peut-être à cause de la culture, de la laïcité, tout ça, les préjugés, mais j'ai vu différents reportages, différentes choses qui ont été dites ou écrites, où presque c'est comme si on reprochait aux chrétiens de faire du prosélytisme en France. Vous faites du prosélytisme. Vous savez ce que ça veut dire, le mot prosélytisme? C'est d'être zélé pour acquérir des adeptes. J'aimerais vous dire ceci. Je suis zélé pour accueillir des adeptes de Jésus-Christ. Et la prochaine fois que quelqu'un vous demande, « Mais tu fais du prosélytisme? » Dites oui. « Ah non, on ne fait pas de prosélytisme. » Dites avec fierté et honneur au nom de Jésus. Dites, « Mais bien sûr! » Si tu as trouvé le bonheur, quelle honte y a-t-il de vouloir le partager? Si tu as trouvé la vraie liberté, pourquoi se cacher de vouloir la partager? Comprenez-vous ce que je veux dire? Ton collègue te dit, maintenant je comprends, parfois au travail, tout ça, il faut respecter, il y a des lois en France et tout, machin. Vraiment, on est sous mes autorités, on fait très attention. Il faut être sage, on fait bien les choses. L'homme sage gagne les cœurs. Mais si quelqu'un vient te voir et te dit, hey, je t'ai vu en train de boire un café sur la terrasse de la voisine, tu fais du prosélytisme, toi? Ah oui, grave. Vraiment, je fais du prosélytisme. Tu sais pourquoi? J'ai vraiment trouvé le bonheur. C'est plus fort que moi, j'ai besoin de le partager. Amen. Cette joie, elle est immédiate. Vraiment. Moi, j'ai vécu des moments dans ma vie où je ne ressentais pas une joie particulière. La journée se passait et tout. Tout à coup, une porte s'ouvre. Je parle avec quelqu'un, je partage. Et quand j'ai terminé, il y a une joie qui m'envahit. C'est une bénédiction de Dieu. Il y a des chrétiens qui pensent qu'à l'argent. Ils croient que la bénédiction de Dieu, c'est juste l'argent qui tombe dans leur portefeuille. Tu peux avoir tout l'argent du monde qui tombe dans ton portefeuille. Si tu n'as pas la joie, tu ne seras pas heureux. Hein? Le vrai bonheur, il vient du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit donne une joie à ceux qui partagent leur foi. Il y a des années, on cherchait à déménager dans une petite ville en Normandie et on cherchait une adresse, tout ça. On était rentrés, je voyageais beaucoup, je prêchais tous les week-ends et ce week-end-là, on était partis avec la famille. Je prêchais au Havre et on était rentrés, on voulait habiter sur une zone qui était pratique pour mes voyages et tout ça à cause des trains pour aller sur Paris. Et on rentre dans cette ville et quelqu'un nous avait dit qu'il y aurait peut-être une petite maison à louer là. Et on s'est présenté au portail, on ne pouvait pas sonner et tout ça. Et tout d'un coup, je cherchais, je me suis dit comment on pourrait laisser un petit papier et leur dire qu'on serait intéressé. On savait que les locataires allaient quitter et qu'on pourrait prendre leur place et tout. Et on trouve chez la voisine, on va sonner chez la voisine et une vieille dame qui vient répondre au portail. Et elle me dit « Oui, oui, je les connais, elle me donne leur numéro. » Et puis on écrit, on laisse un petit mot dans la boîte aux lettres. Et elle se retourne vers moi, elle m'a dit « Et je me souviendrai toujours à travers son portail, il y avait comme on pouvait voir à travers le portail. Et elle me dit, monsieur, allez-vous venir me visiter? Mais je dis, pourquoi? Et elle se met à pleurer. On ne se connaît pas, un pur étranger. Elle me dit, je suis si seule. Je n'ai plus de famille, je n'ai plus rien. Si vous déménagez ici, allez-vous venir me visiter? Et je lui dis, vous savez, je suis pasteur, on croit en Dieu. Et si Dieu permet qu'on déménage ici, on viendra vous visiter. Juste d'avoir dit ça, je me souviens, on était plus heureux de cette ouverture que du déménagement. Comprenez-vous ce que je veux dire? Et mon épouse, j'étais beaucoup en déplacement, et Justine, il y a des occasions aussi, j'ai pu parler avec elle, mais surtout mon épouse a pris le temps d'aller la voir et la visiter, et de partager avec elle, et lire la Bible. Mes filles ont fait des dessins. On pensait qu'à la chouchouter, qu'à la bénir, qu'à lui amener du bonheur, toi. Et elle avait des chats. Et mon épouse est très allergique aux chats. Parfois, Justine rentrait à la maison, elle avait des crises d'asthme. Je ne vous dis pas, elle avait les yeux comme des balles de tennis. Elle revenait, ce n'est pas facile. Je dis, chérie, il faut que tu arrêtes d'y aller. Non, je ne sais pas pourquoi je dois y retourner. Et je rentrais d'une conférence, j'étais à l'aéroport de Nice un dimanche soir, je m'en souviendrai toute ma vie. Et j'appelle Justine pour lui dire, je vais arriver à telle heure, est-ce que tu peux me récupérer à la gare et tout. Et elle me répond comme ça, ma femme est toujours merveilleuse. Mais là, elle me répond un peu sèchement. Elle me dit, écoute, j'ai pas le temps, je suis en train de prier avec Pierrette, elle donne son cœur à Jésus, ciao, clac, elle me raccroche au nez. C'est la seule fois de ma vie, j'étais vraiment heureux que ma femme me raccroche au nez, vraiment, ça m'a... Et je me souviens, écoutez-moi bien, j'avais visité 2-3 églises ce week-end, on a vécu vraiment des belles choses. Et je ne minimise pas ce que le Saint-Esprit avait fait parmi les chrétiens. Mais c'est comme si j'avais plus de joie à entendre que Pierrette avait donné son cœur à Jésus. Et 2 mois plus tard, elle est partie avec Jésus. Mais voyez-vous, si tu sais, il manque quelque chose dans ta vie, si tu n'as pas encore partagé ta foi. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que c'est risqué. Je sais qu'il y a même un combat spirituel. Je sais qu'il y a même des esprits qui vont dire, fais pas ça, ceci, cela, t'es pas digne, t'es pas capable. Non, 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 vas-y quand même. Il y a tellement de joie à simplement partager ce que Jésus a fait pour toi. Amen. Cette joie, elle est immédiate. La joie, je dirais même, elle est à chaque étape. Parce que Paul dit, il y en a un qui sème, l'autre qui arrose et l'autre qui récolte. Peut-être que tu sèmeras, Dieu va quand même te donner une joie. Peut-être que tu vas juste arroser. Il y aura quand même une joie. Peut-être que c'est toi qui auras la joie de récolter, mais peu importe l'étape, à chaque étape, la Bible dit que cette femme, Jésus parle de cette joie d'amener quelqu'un à Christ. Il dit, comme une femme qui accouche, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de sa joie d'avoir mis un enfant au monde. Je ne peux pas me prononcer là-dessus, je n'ai jamais accouché, mais toutes les mères dans cette salle, vous savez de quoi je parle. Personne ne peut comprendre vos douleurs. Mais autant l'épouse, avant d'accoucher, le mari peut se tenir vraiment tout petit dans le fond de la pièce, hein, parce que c'est dangereux. Mais à un moment donné, quand l'enfant vient, la joie envahit la mère. Et là, le père peut revenir. Vous voyez? Et Jésus dit, c'est ainsi. Il y a tellement une joie à accompagner quelqu'un dans sa foi. Amen. Je termine avec ceci. Il y a... Celui qui gagne des âmes est sage pour lui-même. Tu es sage pour toi-même. Je te garantis, c'est biblique, tu trouveras une joie. Une joie. Bien sûr, quand tu es dans tes études, tu es dans tes études. Quand tu es au travail, tu te concentres sur ton travail. Si tu passes tes heures de travail à partager ta foi et que finalement, le travail que tu devais faire pour ton patron n'a pas été fait, tu n'es pas un bon témoignage pour Jésus. On se comprend. Dites avec moi, Parce qu'il y a des gens qui partagent leur foi, partagent leur foi, partagent leur foi, et le travail tarde. Et le patron arrive dans le bureau, le travail n'a pas été fait. Non, non, il y a un temps pour travailler. Et même, tu as un excellent témoignage quand tu travailles bien. Tu es un ambassadeur de Jésus-Christ. Mais quand on prend la mallette et ensemble, on va vers la station de métro pour rentrer à la maison, tu fais quoi tout ce week-end? Ah, moi, je vais à l'église. Tu vas à l'église, t'es chrétien. T'es un évangéliste, toi? Non, évangélique, c'est pas pareil. C'est quoi évangélique, évangéliste? Évangéliste, c'est ceux qui sont agressifs, là, tu vois, qui veulent recruter des gens. Ah, ben, tu sais, c'est moi. Ah, t'es agressif? Non, je suis pas agressif. Mais je partage ma foi. Si tu savais ce que Dieu a fait pour moi, ah, Dieu existe. Ouais, tu sais, on devrait aller boire un café un jour, je te partageais ce que Dieu a fait pour moi. Depuis ça, je te dis, je crois en Dieu. Ah ouais, vraiment? Ouais, moi, je crois pas en Dieu, parce que si Dieu existe, pourquoi il y a des guerres dans le monde et tout? Ben, tu sais, j'irais bien boire un café avec toi pour en parler. Ça commence comme ça. Amen. Il y a une joie immédiate, et je termine avec ceci, il y a un investissement futur. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent. Bien sûr, tu dois payer ta maison, bien sûr, tu dois payer ton loyer, tes choses. Mais amassez-vous des trésors. On parle ici d'investissement, on parle ici de cœur. Bien sûr, Dieu n'a rien contre le fait que tu as une belle voiture. Dieu n'a rien contre le fait que tu as un joli appartement. Dieu n'a rien contre ces choses-là. Mais on parle du cœur. Où est ton cœur? Amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Qu'est-ce que les gens ne peuvent pas voler au ciel? Qu'est-ce qui ne rouillera pas au ciel? Parce que qu'est-ce qui ne peut pas être dérobé? Qu'est-ce qui ne peut pas être rouillé? C'est simple. Des âmes. Si vous pensez que vous ne pouvez rien amener au ciel avec vous, c'est faux. Vous avez tort. Vous pouvez amener quelque chose avec vous au ciel, je vais vous le prouver bibliquement, vous pouvez amener des âmes au ciel avec vous. Il y a une différence entre une dépense et un investissement. Une dépense, c'est de sortir de l'argent pour acquérir immédiatement. Un investissement, c'est de sortir de l'argent pour recevoir beaucoup plus tard. Celui qui est sage investit. Celui qui est insensé dépense, toujours. On dit que certaines personnes sont dépensières, hein, elles dépensent beaucoup, et n'investissent pas ou presque rien. Celui qui est sage investit. J'aimerais vous dire ceci. Si vous préoccupez des gens autour de vous qui ne connaissent pas Jésus, deviennent priorité dans votre vie, vous investissez dans le ciel. Dieu ne te demande pas de sauver quelqu'un, parce que seul Jésus peut faire ça. David dit dans le psaume 3, « Le salut appartient à l'Éternel, mais je peux partager ma foi. » Et Dieu récompensera pour l'éternité ceux qui auront partagé leur foi. Amen. Alléluia. Dieu nous implique intrinsèquement dans son œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui est intrinsèque, c'est comme des muscles qui sont reliés ensemble dans ton corps. Gagner une âme, ce n'est pas mon travail, c'est le travail du Saint-Esprit. Je peux pas, personne ne peut gagner une âme, personne ne peut faire. On ne peut pas faire les choses en nous-mêmes, par nous-mêmes, seuls. C'est impossible. Mais Dieu a décidé dans son infinie science, lui qui pourrait faire tout sans nous, a décidé de le faire à travers nous. C'est ce qu'il a décidé. Pourquoi Dieu n'a pas mis des anges aux quatre coins des rues de Paris? Je vais vous dire pourquoi il ne l'a pas fait. Parce que tu es là. Et Dieu a décidé que ça passerait par toi et moi. Donc Dieu nous implique intrinsèquement dans son œuvre. Nous sommes tissés avec l'œuvre de Dieu à un tel point que regardez ce que Paul dit. Paul va même aller jusqu'à s'approprier des âmes. Il dira aux Corinthiens, « C'est moi qui vous ai donné la vie en Jésus-Christ. » Ah là, Paul, c'est un peu de l'orgueil quand même. C'est Jésus qui sauve les âmes et c'est le Saint-Esprit qui le fait. Et bien sûr, on ne prend pas qu'un seul verset pour faire une théologie ou une doctrine. Mais Paul s'y voit impliqué. J'ai prié pour vous, les Corinthiens. J'ai jeûné pour vous. J'ai semé, j'ai prêché, j'ai fait des baptêmes d'eau, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'aimerais vous dire ceci. Moi, je vous ai enfanté. N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Paul disait, vous êtes mon Église, mes enfants dans le Seigneur, je vous ai mis au monde, je suis impliqué là-dedans. C'est fort, hein? C'est extrêmement fort. Je vais aller encore plus loin. Paul dira ceci, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne peux rien amener de matériel avec moi au ciel, mais je peux amener des âmes. Si je crois Paul, ça veut dire que peut-être qu'au ciel, Dieu prendra Joël et lui dira, devant les anges et tout le monde, il dira, Joël, merci. Ce soir-là, quand tu as invité ton voisin à souper, parce que tout a commencé quand ta femme a aidé sa voisine qui sortait les courses et qui peinait à les monter, et finalement, ça a créé un contact, vous avez appris à vous connaître, et puis finalement, tu les invitais, et tu as partagé ta foi, et ça a travaillé, ça a mis 3 ans, et puis finalement, elle a déménagé au Texas, et puis au Texas, elle a rencontré un autre chrétien, et ce chrétien a prié avec elle, a accepté Jésus. Moi, l'Éternel des armées, je me souviens de ce que tu as fait. Je vous dis ceci, investissez. Pensez à l'éternité. Ne vivez pas que pour ici-bas. Ne cherchez pas que la bénédiction évangélique pour ici-bas. Investissez pour l'éternité. Les âmes sont une réelle récompense céleste. Je vais inviter les musiciens à s'approcher, j'ai terminé. Je ne parle pas de capitalisme chrétien. Un homme de Dieu disait il y a quelque temps que certaines églises ne cherchent qu'à mettre leurs chiffres en avant. On ne cherche pas ça ici à l'Église Paris Métropole. On ne veut pas faire du capital avec vous en disant qu'on est une grande église, qu'on grandit, on fait des baptêmes. On n'est pas du tout dans ce genre d'évangile. Mais on veut voir des âmes sauvées. Et de passer aux actes, eh bien, c'est que chaque enfant de Dieu se mette vraiment à partager sa foi. Pasteur Christian, si tu connaissais ma vie, si tu connaissais ce que je traverse, si tu connaissais... Je vais vous dire quelque chose. Parfois, les meilleurs évangélistes sont ceux qui souffrent le plus. Comprenez-vous ce que je veux dire? Si tu passes par le feu dans ta vie personnelle, si tu vis des moments difficiles, mais les gens te regardent, tes proches te regardent, et si tu leur dis, moi, je mets ma foi en Dieu, oui, mais ton mari t'a quitté, ça ne marche pas l'évangile. Non, non, mais regarde, moi, je suis encore debout. Et au contraire, mon mari m'a peut-être quitté, mais envers et contre tout, je me suis confié en Dieu. J'ai trouvé une paix en lui. Ouais, ça marche ton évangile, ouais, tu as perdu ton travail. Oui, mais je ne suis pas tombé dans une bouteille. Hein. Je me suis confié en Dieu. Tout le monde traverse des moments difficiles. La différence, c'est que le chrétien, lui, se confie en Dieu. Il trouve une force en Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous demande en terminant? Une seule chose, je dirais, être disponible. Je dis, Seigneur, me voici. La gloire dont vous êtes pour moi le sujet, Paul a dit, n'est-ce pas beau? Et Jésus a dit, celui qui me sert, le Père l'honorera. Il y a des années, j'étais jeune pasteur et on travaillait énormément, on était très, très fatigué. Et quand on est pasteur, vous savez, on aide les gens. On est toujours avec des gens. Et la majorité du temps, on rencontre des gens qui ne vont pas bien. C'est très rare que quelqu'un appelle le pasteur pour lui dire, « Pasteur, j'aimerais avoir un rendez-vous pour vous dire que ça va bien. » Comprenez-vous? Les gens ne font pas beaucoup ça. En général, les gens ne vont pas bien. Et j'étais saturé. J'étais tout nouveau pasteur. Et je dis à ma femme, « Prends 2 billets d'avion. On va une semaine se reposer au soleil et tout. » Et je dis, « Je ne suis plus disponible, Seigneur. » J'ai vraiment dit ça. Je suis tellement fatigué. Je suis parti avec des bouquins, de la louange, des prédications. Je vais me faire du bien. Et j'ai dit à ma femme, je ne veux pas parler de Jésus. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand tu es pasteur, dès que tu dis ton métier, tu te mets à parler de Jésus. Tu vas à la banque, tu rouvres un compte de banque. Vous faites quoi dans la vie? Je suis pasteur. Ah, vous êtes pasteur. Tu vas acheter un pain à la boulangerie. Vous faites quoi? Je suis pasteur. Et vous êtes pasteur. Et ma femme le sait. Dès que j'ouvre la bouche, je parle de Jésus. Et je savais que dans l'avion, quelqu'un me parlerait. Et que vous faites quoi dans la vie? Vous partez en vacances, vous faites quoi dans la vie? Je suis pasteur. Et qu'on avait 5 heures de vol. Et que je parlerais de Jésus. Je ne voulais pas aller parler de Jésus. Alors, j'ai dit à ma femme, il y a 3 sièges. Je me mets au bord de la fenêtre. Je parle à personne, vraiment personne. J'en peux plus. Et ma femme, je ne sais plus pour quelles circonstances, je me suis retrouvé au milieu. Et une femme est venue s'asseoir à côté de moi. Et je disais à ma femme, je ne veux pas lui parler. Et elle va me demander ce que je fais dans la vie. Et dans 30 minutes, je vais lui parler de Jésus. Et ma femme me regarde, la honte. C'est pas possible. Mais toi, tu lui parles de Jésus. Moi, je suis fatigué là. Et comme de fait, vous faites quoi dans la vie? Je sais ce que j'ai fait. Je suis pasteur. Je me suis retourné. Je ne voulais pas lui parler. Je ne voulais pas lui parler. 30 minutes plus tard, la femme s'étouffe, est en train de mourir. Et les secours sont venus en plein vol. C'était une histoire incroyable. Et tout le monde est en train d'essayer de sauver cette femme. Et moi, je suis assis. Je suis en train d'essayer de me repentir. Seigneur, pardonne-moi, 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 pardonne-moi. Je ne vous raconte pas la leçon que je me suis pris. Quand elle est revenue s'asseoir à côté de moi, je vous disais que je suis pasteur. Est-ce que vous croyez en Dieu? Et finalement, j'ai vraiment manqué mon coup sur ce vol. Et j'ai dit, Seigneur, si l'occasion se représente vraiment, vraiment, Seigneur, même si je suis fatigué, je te servirai. Vous savez, quand on fait une prière, Dieu n'oublie pas. Des années plus tard, j'atterris à New York, je suis lessivé, fatigué. J'arrive d'un culte, je vais juste voir des amis me reposer et tout ça. Et j'embarque dans un... J'attrape un taxi comme ça, on part et tout. Et c'était le chef de la société taxi qui formait le jeune chauffeur. Donc on prend la route pour aller sur Times Square et j'ai dit, déposez-moi 51e et Broadway. Et il me répond comme ça, waouh, vous avez de l'argent, vous habitez là. Non, non, j'habite pas là, je vais visiter une église. Je vais retrouver des amis à l'église Times Square Church à New York et tout, machin. Et le chauffeur de taxi me dit, vous êtes chrétien? Je dis, oui, je suis pasteur. Il dit, vous êtes pasteur. Donc on est dimanche midi, vous avez prêché ce matin? Je dis, oui, j'ai prêché ce matin. Il dit, vous avez prêché quoi? Et j'ai dit, Seigneur, me voici. Et je lui ai fait tout mon message. On avait 45 minutes de taxi. J'ai partagé en 15 minutes ce que j'avais prêché. Et il ne me parle plus. Il ne parle plus. À un moment donné, il se retourne. Et je vois les larmes qui coulent sur son visage. Il me dit, vous savez, monsieur le pasteur, avant j'étais pasteur. Mais j'ai tombé, j'ai péché, j'ai fait des choses graves. Et c'est fini pour moi. Et croyez-moi, je n'ai pas loupé cette deuxième chance. J'ai dit non, il n'est pas trop tard. Et les 30 autres minutes ont été extraordinaires. Mais tout ce que Dieu veut, c'est qu'on soit disponible. Amen. Il y a plus de joie à partager ta foi. Amen. On se lève ensemble en terminant. J'aimerais t'inviter juste à t'offrir à Dieu avant qu'on se quitte. Si tu peux, lève tes mains vers le Seigneur. Et dis au Seigneur, me voici, Seigneur. Dis-lui, je te donne ma vie, je te donne mes combats, je te donne mes besoins, je te donne mes problèmes, je te donne mes échecs, je te donne tout, Seigneur. Fais juste lui dire, Seigneur, je te donne toute ma vie, tu connais tout, tu sais tout de moi, Seigneur. Mais je suis disponible, Seigneur. Je veux parler de toi, Seigneur. Il est sage, celui qui gagne des âmes. Il est sage pour lui-même. Il trouvera une joie immédiate et un investissement éternel. Dis-lui au Seigneur Jésus maintenant, Seigneur, me voici, Seigneur. Je veux juste te servir, Seigneur. Je veux juste partager. Aide-moi à partager ma foi cette semaine, Seigneur. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Prends un instant avant de se séparer juste pour prier. Hallelujah. Hallelujah. Seigneur, nous voici, Seigneur. Apprends-nous à quitter les 99 justes, Seigneur, et à nous intéresser à une personne cette semaine. Une personne, Seigneur, nous voulons passer aux actes, Seigneur. Seigneur, donne-nous la joie de gagner des âmes. Donne-moi la joie. Apprends-moi. Dis-lui, Seigneur, apprends-moi à partager ma foi. Je ne sais pas comment, Seigneur. Il y a des formations, il y a des cours, il y a des très, très belles choses qui existent. Mais aussi, le Saint-Esprit peut t'enseigner. Dis-lui, Seigneur, aide-moi à partager ma foi. Aide-moi à être un bon témoignage au travail, Seigneur. Aide-moi à être un bon témoignage, Seigneur, à l'école, au travail, envers mes voisins. Aide-moi, Seigneur. Dans les moments difficiles de ma vie, aide-moi à être un bon témoignage, Seigneur. Et aide-moi à partager ma foi, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, tu as dit, mais vous recevrez une puissance. Tu n'as pas dit, vous recevrez une puissance et vous serez en extase. Non. Tu as dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Seigneur, c'est ce que nous voulons, Seigneur. Merci pour ton esprit. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence, Seigneur. Mais Seigneur, tu nous as sauvés. Tu as changé ma vie. Tu as changé nos vies, Seigneur. Alors, Seigneur, nous voulons partager notre foi, Seigneur. Car il y a plus de joie à partager ma foi qu'à la garder pour moi-même, Seigneur. Et Seigneur, tu dis dans ta parole, celui qui gagne des âmes est sage, car il est sage d'abord pour lui-même. Alors Seigneur, nous voulons investir. Investir dans l'éternité, Seigneur. Et Seigneur, j'ai confiance que mes frères et sœurs qui sont ici aujourd'hui, certains sèmeront, certains arroseront, certains récolteront, mais un jour tu nous montreras le fruit, Seigneur. Un jour dans le ciel, tu diras à quelqu'un, viens, 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 je vais t'introduire à ton frère que tu n'as pas connu, à ton frère ou ta sœur, quelqu'un un jour que tu as croisé, mais et regarde, aujourd'hui il est ici avec nous dans le ciel. Seigneur, là, tout va passer, l'Église Paris-Métropole, tout va passer un jour, il n'y a plus rien qui va rester, mais les âmes vont rester, Seigneur. Alors, Seigneur, nous disons ce soir, ce matin, Seigneur, nous voici, Seigneur. Aide-nous. Et Seigneur, nous te disons, aide-nous, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Aide-nous à partager notre foi, car il y a plus de joie à partager sa foi. Et tous ceux qui l'aiment disent Amen. Amen. Hallelujah. Merci, Seigneur. Amen. Je te donne.